Chapitre 10, le traité. L'effort du président Wilson. Pendant que nos soldats continuaient à tomber, monsieur le président Wilson réfléchissait sur le but de ces batailles comme l'histoire n'en avait jamais vu. Il les avait d'abord déclarées indignes de l'attention américaine, et voici qu'elles aboutissaient à une crise mondiale dont, pour trouver la solution, il ne fallait pas moins de 14 chefs de réorganisation. Quel que fussent le nombre et la forme des propositions wilsoniennes, l'idée était américaine de fixer par anticipation, en pleine bataille, les conditions organiques de la paix future. Chacun des alliés et associés y trouvait des garanties contre tout excès d'ambition guerrière, et l'opinion allemande elle-même y gagnait de savoir jusqu'où l'affaiblissement de sa résistance pouvait l'engager. Quelques personnages se plaignirent sans doute de n'avoir pas trouvé dans ces arrangements leur compte de victoire, mais ils attendirent pour cela que la victoire finale fût décidée. Je n'ai point à discuter ici des solutions infiniment complexes qui, à tout risque, finirent par prévaloir pour des chances à venir. Il n'en est pas moins d'une indéniable vérité que le président Wilson contribua, plus que tout autre, à fixer les statuts de l'Europe nouvelle, tant par l'autorité finale de son secours militaire que par la puissance extérieure d'une parole en dehors des traditions du passé. Quand on accepte superbement de telles responsabilités, peut-on s'en dégager dans la désinvolture d'une paix séparée en laissant à chacun le soin de se tirer d'affaire moyennant un tribut au profit d'un bénéficiaire particulier des sacrifices de tous ? Monsieur le président Wilson, le prophète inspiré d'une noble entreprise d'idéologie dont il allait fâcheusement devenir le prisonnier, connaissait insuffisamment cette Europe qui gisait en morceaux devant lui. Il lui incombait de fixer le destin des peuples par des combinaisons d'empirisme et d'idéalisme dont ne pouvait s'étonner un Américain qui, par la doctrine de Monroe, déliait l'Amérique des répercussions européennes en même temps qu'il intervenait en Europe au nom de la solidarité historique des peuples civilisés. Il fit tout de son mieux en des circonstances dont les origines lui avaient échappé et dont les développements ultérieurs se trouvaient au-delà de son champ de vision. Le traité de Versailles ne se défendra peut-être pas trop mal dans l'histoire, surtout si l'on ne s'abstient pas de faire le compte des concessions ultérieures dont les virtuosités du laisser-faire ont permis aux vaincus de tirer avantage grâce à l'appui de nos anciens alliés. Le principal mérite de cet essai d'une pacification durable est d'avoir cherché, pour la première fois dans l'histoire, les points fermes d'un établissement de justice entre des peuples qui jusque-là n'avaient vécu que de violence. Napoléon faisait son Europe à coups de hache. Ses traités hâtifs ne duraient guère, mais il prenait soin que, pour un temps, ils ne fussent pas discutés. Soumis à toute critique d'improvisation, le traité de Versailles ne réussit certainement pas à réaliser les espérances diverses que chacun en avait pu concevoir, ce qui n'était pas pour surprendre. Du moins, dans une Europe disloquée, osa-t-il aborder l'entreprise d'une reconstitution générale? Trop tôt peut-être aurons-nous à juger de ce qu'on en a fait. En de telles conditions, monsieur le président Wilson, sans intérêt territorial à débattre et tout flambant de sa panacée, fut en état de rendre et rendit d'éminents services pour rassembler au jour le jour des parties de conciliation générale qui trop souvent n'étaient que de courte durée. Avec l'aide incessante de son ami, l'habile colonel Hawes, il aplanit bien des difficultés, toujours renaissantes d'ailleurs, et put légitimement croire pour quelque temps au succès de l'entreprise qui devait couronner ses efforts. Des efforts méthodiquement ordonnés en vue de résultats concrets. Voilà ce qu'il exposait bravement dans les 14 points qu'il présentait au Congrès. Chacun connaît cette œuvre de courageuse probité qui fait le plus grand honneur à celui qui l'a conçue et n'a pas craint de la formuler. Nous étions ainsi transportés bien loin du temps où le même président Wilson se désintéressait des causes obscures de tant de maux. L'éclair du canon allemand avait enfin déchiré la nue et le président des États-Unis d'Amérique, subitement éclairé, cherchait, devant les peuples réunis, les conditions durables d'une paix de justice pour l'Europe, dont le sang n'aurait pas coulé vainement s'il devait sortir, de tant de maux, la continuité, même relative, d'une paix de bon sens et d'équité. Plus l'erreur du président à l'origine avait été profonde, plus noble et plus fertile en enseignement se montrait ce magnifique appel à l'idéologie du droit lésé. La grande République américaine reprenait enfin son rôle dans le monde en nous offrant l'accès d'une solidarité internationale jusqu'ici méconnue. En pleine guerre, nous énoncions les conditions intangibles de paix, répudiant l'esprit de conquête jusqu'à prédire superbement le droit avant de l'avoir fixé. Peut-être l'entreprise était-elle trop belle pour qu'on la poussât audacieusement jusqu'aux extrémités. Cet effort de noblesse, dans les pires misères, nous le devions à M. Wilson, parlant avec l'autorité décisive de la grande démocratie dont il était le serviteur. Pour moi, je lui en garde à lui et à son peuple la plus vive reconnaissance. Dans le souvenir des hommes qui viendront, cette dette au moins ne sera jamais lourde à nos cœurs. Mais il n'est pas juste de reconnaître que ce haut mouvement de maîtrise morale avait eu de cruelles compensations dans les années de méditation nécessaires au chef du peuple américain pour passer d'une proclamation d'indifférence touchant les causes de la guerre aux revendications du droit international manifestées dans les suprêmes énergies de nos communes armées. Une fois encore, je vous le demande, amis, ces lourdes contreparties, qui donc en a porté le poids, sinon nos soldats engagés depuis des années dans les plus dures batailles de l'histoire, à travers les indicibles épreuves des pays dont ils arboraient superbement le drapeau. M. Wilson avait réalisé le plus bel effort d'idéologie en proposant de résoudre systématiquement, dans un ordre d'interdépendance, un ensemble des problèmes européens qui causaient depuis longtemps l'agitation du monde civilisé. À la voix du président sauveur, les anciennes injustices allaient être réparées. Que d'espérance s'élançait au-devant des réalisations prochaines. À peine quelques esprits moroses faisaient-ils discordance, trop de lacunes, de toutes parts. Mais déjà, les peuples séculairement opprimés envoyaient des délégués et plaidaient leur cause à la conférence, et l'on pouvait espérer que le temps amortirait bien des maux, adoucirait des oppositions passagères de sentimentalité et d'intérêt. Des mois se dépensèrent en ce travail ingrat, d'où personne, il faut bien le dire, ne pouvait sortir satisfait. Trop de rouages n'avaient pas cessé de grincer. Le plus beau est qu'il y eût des gens pour en manifester leur étonnement. Cependant, le généreux idéal du président Wilson le poussait à chercher des consolidations de son œuvre. Il savait trop bien quelles difficultés devaient surgir à tout moment. Pour mettre sa machine en action, il lui fallait un moteur, et ce moteur, il voulait l'avoir trouvé dans une Ligue des Nations, qui n'était pas autre chose qu'un raccourci des parlements internationaux, où viendraient se concentrer, se multiplier, s'aggraver, et quelquefois aussi s'atténuer momentanément, tout désaccord historique, toutes intrigues de diplomatie, toute coalition d'égoïsmes nationaux ou même particuliers. Les parlements n'ont pas gagné dans la considération des peuples au cours de ces dernières années. Avec leurs grands défauts, ils n'en sont pas moins nécessaires. Cela n'impliquait peut-être pas la nécessité d'un surparlement dont l'unique emploi, quand il faudrait des actes, serait de surparler. Quoi d'autre, puisque tout pouvoir d'exécution lui échapperait. Il faut bien reconnaître que l'essai a pleinement répondu à cette attente et qu'on ne peut que discourir quand il faudrait décider, imposer. Encore suis-je loin de croire que cela même suffirait à arranger les affaires, car tout condamné manque rarement de maudire ses juges, et tant qu'un condamné pourra argumenter à coups de canon, on fera bien de se méfier de lui. 6 mois après le manifeste des 14 points, M. Wilson, poursuivant son propos sans s'inquiéter des moyens, vint soumettre à l'opinion américaine, juillet 1918, dans le discours où il célébrait la fête de l'indépendance à Mount Vernon, les pensées de paix générale où son esprit s'était arrêté. Il s'agissait cette fois de 4 nouveaux points constituant une sorte de credo mystique définissant les buts à atteindre par l'entremise de la Ligue des Nations. Je n'en veux retenir que l'article premier, se proposant d'assurer la destruction de toute puissance arbitraire où qu'elle réside, qui pourrait, séparément, secrètement et de sa propre autorité, troubler la paix du monde, ou, si on ne peut pas obtenir sa destruction en ce moment, la réduire tout au moins à l'impuissance virtuelle. Et pour réaliser cette œuvre de pure idéologie où se cantonne imperturbablement l'orateur, il conclut avec confiance qu'une simple organisation de paix rendra ce résultat certain. Il y a probablement peu d'exemples d'une telle méconnaissance de l'expérience politique dans les tourmentes de l'idée. Nous en pouvons déjà juger par les premiers résultats. Mais cela n'est encore que d'une importance secondaire en comparaison de la catastrophe où le Sénat américain, par une majorité de 6 voix, rejeta le traité de Versailles et s'engagea fatalement dans la voie d'une paix séparée. On me dit qu'en employant cette expression, dans une occasion précédente, j'ai blessé des cœurs américains. Je le regrette bien vivement, mais la simple définition des termes ne permet pas d'y rien changer. Qu'est-il donc advenu ? Les formules wilsoniennes de la Ligue des Nations devaient susciter dans le Congrès américain de graves contradictions dont M. Wilson s'est obstiné à ne pas tenir compte. Ce fut une extraordinaire passe d'armes et chacun des adversaires s'acharna à ne rien céder d'une position périlleuse sans vouloir considérer les dangers de susciter une redoutable prolongation de la crise mondiale où nous nous débattons encore aujourd'hui. Une lettre de M. Hitchcock, 4 mars 1919, sénateur du Nebraska, fit remarquer à M. Wilson que dans un vote où il suffisait d'un déplacement de 4 voix, il lui serait facile, avec de légères concessions, de déplacer la majorité. Mais l'entêtement des 2 parts ne voulut rien entendre, et j'avoue qu'en présence de cette double résolution de ne rien concéder, je me suis parfois demandé si l'intangible doctrine de Monroe ne devait pas avoir pour effet inévitable de renvoyer tout le monde, en des formes diverses, à la politique générale de non-intervention qui avait été d'abord celle du président. Les Américains ont le droit assurément d'avoir la politique qui leur plaît. Encore, puisque nous avons eu à en subir les conséquences, sommes-nous également dans notre droit en essayant de la préciser. Je ne vais point discuter la doctrine de Monroe, où je vois une précaution d'empirisme contre les entreprises des conquérants européens. À vrai dire, elle n'est rien de moins qu'une conception restreinte de solidarité continentale qui laisse d'ailleurs le champ libre aux dominations organisées. Mais précisément parce qu'elle doit établir ainsi une paix séparée du nouveau continent et que l'Amérique ne peut pas renoncer à ses relations européennes, il s'agit de savoir si, en vertu de la solidarité particulière de Monroe, vous devez vous désolidariser de l'Europe pour d'hypothétiques résultats, ou resserrer les liens de la solidarité naturelle de toutes les civilisations. La réponse ne me paraît pas douteuse. Le principe admis, nous pourrons échanger des vues sur les formes de l'application, et c'est justement sur ce point de débat que ni M. Lodge ni M. Wilson n'étaient en mesure de discuter utilement. Est-ce pour cela que de part et d'autre on ne s'embarrassa pas de pousser l'argumentation ? Il serait possible. Toujours est-il que la grande bataille fut de simples escarmouches, tout juste assez de victoires ou tout juste assez de défaites pour que l'engagement pût en rester là, à nos dépens. Votre intervention dans la guerre, qui vous fut clémente, puisqu'elle ne vous prit que 56 000 vies, au lieu de nos 1 364 000 tués, vous avez paru néanmoins peut-être d'un excès de solidarité. Et soit en organisant une Ligue des Nations qui devait pourvoir magiquement à la solution de tous les problèmes de garantie internationale, soit en vous retirant simplement des combinaisons européennes, vous vous trouviez de toute façon hors d'embarras par le moyen d'une paix séparée. Mais tout cela n'était pas si simple qu'il pouvait apparaître. Les peuples, tout limités qu'ils soient par des frontières naturelles ou artificielles, n'ont qu'une planète à leur disposition, une planète dont tous les éléments sont solidaires, et loin que l'homme fasse exception à cette règle, il se découvre, jusque dans ses activités profondes, le témoin supérieur de l'universelle solidarité. Derrière vos barricades d'océan, de glace et de soleil, vous pouvez peut-être pour un temps vous isoler de vos concitoyens planétaires, bien que je vous trouve aux Philippines, où la géographie ne vous a pas appelé. mais s'il y aura des peuples civilisés sur tous les continents, quoi qu'il vous arrive, et si vous ne vous occupez d'eux que pour échanger des marchandises, est-il certain qu'ils ne s'occuperont pas de vous dans d'autres vues? La Chine, le Japon ont une histoire à poursuivre. Dans quelle direction? De même pour l'Europe et l'Asie. L'Angleterre, la France, la Russie, l'Allemagne, l'Italie ne peuvent avoir seulement en vous des énergies d'indifférence. Les thèmes de rivalité ne vous sont pas inconnus. Vous savez tout cela. Mais considérant le temps dont vous avez eu besoin pour découvrir le droit violé dans la personne de la Belgique, malgré les engagements les plus sacrés de l'Allemagne, aussi bien que pour découvrir en France les frontières de la liberté, vous avez fait confiance à une politique d'ajournement qui nous a coûté cher et dont vous ne semblez pas disposé à vous départir. Ce n'est pas l'enthousiasme qui vous a jeté dans nos lignes de feu, c'est l'inquiétante continuité des agressions allemandes. Cependant, la victoire obtenue a légitimement engagé votre président à vouloir assurer pour jamais une paix universelle dont, avec emphase, il s'était d'abord hautement désintéressé. « Tout ou rien », semblait-il dire. « Ami, ce n'est pas là une devise humaine. » Et devant les suprêmes périls d'aujourd'hui, vous voilà d'accord une fois de plus pour différer, et pour différer sans retour possible, si vous en venez à achever la ruine de ceux-là même que votre intention fut d'aider. Nous avons vu pourtant que M. Mélon lui-même, âpre au recouvrement de cette dette de guerre, avait fort bien compris que ce n'était pas la même chose pour les États-Unis de commercer avec une France prospère ou avec une France ruinée, dans la paix par les Américains, après avoir été ruinée dans la guerre par les Allemands. Si l'on devait persévérer dans cette vue, il faudrait envisager résolument de fâcheux aspects d'avenir. C'est ce qui ne se rencontre pas toujours dans le monde politique où l'éclair d'intelligence est plus commun que la mise en œuvre de volontés ordonnées. Le Congrès demeura d'accord avec M. Wilson, aussi longtemps qu'on se plut à détourner les yeux des causes et des conséquences de la guerre européenne. Mais le jour venu où la victoire devait forcer l'homme d'État américain lui-même à choisir sa place dans les conflits de la civilisation, comment s'accorder... Quand l'un, avec sa ligue, prétend solidariser magiquement tous les peuples dignes de ce nom, tandis que l'autre s'attache à désolidariser en même temps la civilisation américaine de la civilisation asiatique et de la civilisation européenne. C'est peut-être beaucoup de besogne à la fois. M. Wilson, d'abord imperturbablement retardataire, était devenu le prophète impétueux d'une formule nouvelle, métaphysiquement impeccable, mais aux exigences de laquelle les peuples, dans leur présent état d'esprit, auront quelque peine à s'accommoder. Sur le plan d'un débat didactique, où l'un acceptait de jouer l'avenir que l'autre entendait réserver, une opposition d'affirmations irréductibles s'offrit aux esprits déconcertés. Président et Congrès roidis dans un engagement sans issue. Pas un mot d'ailleurs de la fameuse question des dettes interalliées dont on ne s'avisa qu'après avoir fait sauter les ponts des deux côtés. Monsieur le Président Wilson a dit et répété que la clé de la paix est la garantie donnée et non les conditions de la paix. Quilt Hall, 28 décembre 1918. Il avait déjà posé ce principe au New York Metropolitan Opera House en septembre 1918, quand il déclarait trop justement que sans cela, la paix du monde reposerait en partie sur la garantie des hors-la-loi. Il se trouve ainsi cruellement qualifié les conditions de paix que la faillite de son plan nous a imposées, le traité unilatéral de l'Amérique en dehors de ses associés. C'est ce que l'histoire ne pourra désigner sous autre nom que celui de paix séparée. Ce qui n'empêche pas les garanties de M. Wilson de se montrer bien fragile lorsqu'il enseigne à la conférence de la paix, 14 février 1919, que son covenant est une garantie déterminée de la paix protégée contre toute agression par la parole donnée. Il oublie bien fâcheusement en effet que la violation du territoire belge assigne une valeur de néant à la parole des « hors-la-loi ». Mais le président de la République américaine a tout autre chose en tête. Comme il redoute, non sans raison, les épreuves qui vont suivre, il veut joindre traité et covenant de la Ligue des Nations en un bloc infrangible pour que peuple et parlement, une fois donné leur assentiment doctrinal, ne puissent plus se reprendre. Le traité couvrira le covenant de son aile et tout le monde sera sauvé. Je me permets de trouver que cette vue est un peu courte, surtout quand on n'ose même pas soulever la question d'un pouvoir d'exécution aux mains de nos sauveurs. Mais dès le 21 décembre 1918, le sénateur Lodge avait pris position contre l'idée de joindre le traité de paix et le covenant d'une ligue des nations fortes ayant la puissance nécessaire pour faire exécuter ses décrets. On sait le reste de l'histoire. M. Wilson accepte de légers amendements au texte du Covenant, mais tient ferme sur la jonction du Covenant au traité, point capital de désaccord. Le Sénat vote le traité avec des réserves et par conséquent le renvoie au président qui met le papier dans ses archives, d'où il ne sortira plus. Ainsi finit l'aventure au cours de laquelle sombra le pacte de garantie qui nous solidarisait avec l'Angleterre et l'Amérique au regard de l'Allemagne pour le maintien assuré de la paix.